franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
À la une de la science, la gestion des déchets nucléaires. C'est sur le site de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, dans le Cher, qu'EDF envisagerait de construire une piscine géante de refroidissement de combustibles usés. L'information a été révélée mardi dernier par le site Reporter, dont nous sommes partenaires. Et c'était le premier volet d'une longue enquête sur la question des déchets nucléaires. On s'intéresse plus particulièrement aujourd'hui à l'un de ces déchets, le MOX, hautement radioactif. Et on en discute, Agnès, avec nos invités.
Hervé Kempf et Yves Marignac, bonjour à tous les deux et bienvenue.
Bonjour.
Hervé Kempf, donc vous êtes rédacteur en chef de reporter.net, notre partenaire, comme chaque lundi. Et Yves Marignac, vous êtes directeur de WISE Paris, structure d'information, d'expertise et de conseil sur l'énergie et le nucléaire. Alors première chose, après donc ces fameuses révélations de reporter, selon qui EDF étudie la construction d'un bassin de stockage de déchets hautement radioactifs sur son site de Belleville-sur-Loire, l'électricien dit qu'il ne confirme ni n'infirme l'information. Pourquoi si peu de transparence, Yves Marignac ?
Probablement parce que ce projet, qui est donc alors non pas un projet de stockage mais d'entreposage, mais pour une longue durée probablement de combustible usé.
C'est quoi la différence entre stockage et entreposage ?
Le stockage, c'est quand vous décidez dès le début que c'est définitif. L'entreposage, c'est quand vous mettez ces déchets ou ces combustibles à un endroit avec l'idée de les reprendre un jour pour aller les mettre dans un stockage. Et le stockage ultime dont on parle pour ce type de déchets en France, c'est bien sûr le projet de stockage géologique CIGEO dans la Meuse.
À Bure.
Un projet de ce type-là est très différent d'un réacteur nucléaire. Les retombées locales ne sont pas les mêmes. Les enjeux par rapport au fait d'accepter des déchets ou des combustibles qui viennent de partout en France ne sont pas les mêmes. La durée sur laquelle on s'engage est beaucoup plus incertaine. Et donc, il est très probable que ce projet va générer une opposition locale importante, même si EDF n'a pas d'autre choix que de l'implanter dans une centrale nucléaire. Et donc, on peut penser que EDF cherche effectivement à gagner du temps, à travailler en coulisses à l'acceptation auprès des acteurs locaux avant de révéler officiellement ce site. Mais c'est un secret de polichinelle que le site le plus approprié est celui sur lequel travaille EDF, et bien celui de Belleville-sur-Loire.
Cette acceptabilité locale dont vous parlez, elle la recherche d'autant plus qu'un des déchets que cette piscine devrait accueillir, c'est le MOX. Et c'est peut-être un peu plus contraignant aussi, c'est un déchet particulièrement encombrant.
Alors le combustible MOX usé est effectivement un combustible différent du combustible classique à l'uranium qu'on utilise en grande majorité dans les réacteurs français et en très grande majorité dans les réacteurs dans le monde. Le MOX, qui est fabriqué avec du plutonium issu du retraitement du combustible, contient donc ce plutonium, il est par nature plus réactif, plus chaud également, et donc il pose en termes d'entreposage, de manutention, de transport, des problèmes plus aigus que le combustible classique.
Hervé Kem.
Ça atteint quelle température précisément en sortie de réacteur et une radioactivité pour combien d'années ?
Alors le problème de la température en fait est un auto-échauffement possible sous le dégagement de radioactivité du combustible. Donc c'est un combustible qui est suffisamment chaud pour échauffer par exemple l'eau qui est autour de lui dans les piscines et qui peut atteindre donc plusieurs centaines de degrés et atteindre en particulier le point d'ignition du zirconium qui forme les gaines de combustible de ces crayons combustibles. Et à partir de là on entre dans un processus, si on perd le refroidissement, on entre dans un processus d'auto-échauffement qui conduit in fine au relâchement de toute cette radioactivité.
Et ça veut dire que concrètement, sur ce site de Belleville-sur-Loire, si c'est bien confirmé, il faudrait construire par exemple des bâtiments de quelle nature pour avoir une meilleure sécurité par rapport à ces matériaux hautement radioactifs ?
La sûreté et la sécurité qui sont deux choses différentes. Mais la protection de ce combustible contre à la fois des situations accidentelles et contre des actions de malveillance demande, si on est dans le scénario d'une piscine, qui n'est pas forcément le scénario le plus adapté à long terme, de maintenir en permanence un niveau d'eau important au-dessus du combustible et de maintenir un confinement absolu de cette piscine. C'est ce qui n'existe pas justement aujourd'hui, ni sur les piscines des 58 réacteurs d'EDF, ni sur les piscines de La Hague. Elles n'ont pas été conçues avec une enceinte de confinement comme celle qu'on connaît sur les réacteurs. Et ça sera certainement un énorme enjeu pour ce projet à Belleville de l'implanter avec une enceinte de confinement digne de ce nom. Une bunkérisation, en quelque sorte. Se posera évidemment dès lors la question de pourquoi les autres piscines restent non bunkérisées.
Sachant que le problème de la piscine de La Hague, c'est pas forcément cette non bunkérisation, pour reprendre votre terme, c'est aussi que la piscine est bientôt pleine. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir construire autre chose. Alors peut-être en profiter pour faire mieux et plus sécurisé, mais c'est avant tout un problème de place.
Alors c'est un problème de place, mais qui est lié aussi au problème de sûreté et de sécurité. C'est-à-dire que on ne peut pas indéfiniment densifier l'entreposage du combustible dans ces piscines. On ne peut pas y mettre ce potentiel thermique trop important. On a déjà densifié au début des années 2000 les piscines de La Hague. EDF voulait densifier l'entreposage du combustible dans les piscines des réacteurs. Ça a été refusé. C'était en discussion avant Fukushima et après la catastrophe de Fukushima, où, si vous vous souvenez, on a beaucoup craint un problème justement sur la piscine du réacteur numéro 4. L'autorité de sûreté nucléaire a refusé cette densification. Du fait de ce refus et du fait qu'on retraite chaque année moins de combustible qu'on en décharge des réacteurs, donc le stock s'accumule, on a aujourd'hui, à l'horizon de 10 ans ou peut-être moins, un problème de saturation complète de nos capacités d'entreposage en piscine.
Mais ce MOX qui va peut-être atterrir à Belleville-sur-Loire bientôt, donc vous l'avez dit, il est issu déjà d'une, c'est une forme de retraitement, il est issu du plutonium et de l'uranium usé. Donc ça veut dire que s'il est si compliqué à gérer et encore si risqué, en le retraitant, on n'a pas complètement recyclé tous les combustibles usés.
Alors la théorie du retraitement-recyclage, c'est qu'effectivement, on part d'un combustible fabriqué à partir d'uranium, hein, d'uranium naturel enrichi. Et ce combustible, on le retraite et on en extrait en particulier du plutonium qu'on va réutiliser dans ce combustible MOX. La théorie, c'est qu'on peut indéfiniment refaire la même chose et retraiter le combustible et recycler. La réalité, c'est que, à la fois pour des raisons industrielles à La Hague et pour des raisons de dégradation de la qualité de ce plutonium, on ne retraite pas aujourd'hui le combustible MOX. Et donc, il y a un discours d'EDF qui est que ce MOX est destiné à être retraité. Et puis, il y a une réalité qui n'est que... On l'entrepose sans trop savoir ce qu'on en fera à long terme. Ce projet de piscine d'entreposage qui, d'après ce qu'on a compris, va consister à extraire le MOX en attente à La Hague pour l'amener à Belleville, signe en fait implicitement le fait qu'on renonce
un changement de politique
à ce retraitement et à cette politique du tout retraitement du combustible. C'est, sans le dire, un pas énorme, une évolution énorme dans la stratégie nucléaire nationale.
Merci Yves Marignac de nous avoir un peu éclairé sur ce point. Hervé Kempf, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire sur Reporter aujourd'hui ?
Eh bien, une enquête sur les cartographies des cours d'eau. Ça paraît bizarre, mais il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de cours d'eau en France, et c'est un enjeu juridique. C'est que si, par exemple, un fossé ou une ravine n'est pas considéré classé comme un cours d'eau, on peut y jeter à peu près ce qu'on veut, en tout cas des pesticides, ou ne pas faire attention. Si c'est un cours d'eau, on est obligé d'avoir des pratiques agricoles particulières. Donc il y a tout ce travail qui est en cours, et c'est une vraie bataille. Et puis aussi, par ailleurs, un témoignage d'un ouvrier qui travaille dans les usines de tri des déchets. Alors c'est formidable de recycler, de trier les déchets, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes et des femmes qui y travaillent, et leur travail n'est pas toujours simple, et parfois même dangereux.
Et bien sûr, on retrouve toujours votre enquête sur cette piscine pour entreposer des déchets radioactifs. Merci Hervé Kempf et puis Agnès, à la semaine. À demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'effet des ouragans sur les animaux est perceptible à l'oreille. Pour mesurer les ravages des cyclones tropicaux Irma et Maria sur les animaux, des scientifiques ont eu l'idée d'utiliser des enregistrements sonores réalisés dans les forêts côtières et près des coraux sous l'eau, donc au sud-ouest de l'île de Porto Rico. Résultat, les crevettes pistolets qui produisent avec leurs pinces des claquements d'une telle intensité qu'ils étourdissent les proies se sont tues pendant le passage de l'ouragan. Les poissons, au contraire, étaient bien bien moins discret. Selon les chercheurs, l'ouragan a tellement bouleversé les fonds marins qu'il devenait inutile de chasser pour les crevettes, tandis que les poissons ne craignaient plus d'être attrapés. Sur Terre, les insectes et les oiseaux se sont tus, un silence encore inexpliqué. Autre mystère qui aurait peut-être inspiré le roi du roman d'espionnage John le Carré, une étrange maladie a touché une vingtaine de diplomates américains l'année dernière à Cuba. Les symptômes qui ont duré plus de 8 mois étaient à peu près similaires. Vertiges, maux de tête, douleurs aux oreilles, problèmes auditifs, difficultés pour se concentrer et pour lire, sensibilité à la luminosité, insomnie. Des scientifiques de l'université de Pennsylvanie viennent de rendre leur première conclusion. Il s'agit de lésions à travers les réseaux cérébraux. Sans traumatisme antérieur, ils écartent la piste d'un virus, mais n'en disent guère plus. La vie de tempête sur Neptune, bientôt levée. La NASA annonce que le vortex, cette zone de très haute pression observée en 2015 sur Neptune, est en train de s'estomper. La preuve avec les dernières images envoyées par le télescope spatial Hubble. La tâche, une sorte de halo brillant, disparaît assez rapidement en progressant vers le pôle sud. Un vortex avait déjà été observé sur la planète venteuse en 1989. Il était alors bien plus gros, de la taille de la Terre. Des images à retrouver sur la page Facebook de la Tête au carré.